Bonsoir. Un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la RDC, a indiqué lundi 30 octobre l'Agence des Nations Unies pour l'immigration. Dans son communiqué, l'Organisation internationale pour les migrations souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire. Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises des déplacements internes et humanitaires au monde, a indiqué cette agence onusienne basée à Genève. Ces derniers mois, les violences ont provoqué dans le Nord Kivu les déplacements des centaines de milliers de personnes et aggravé la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. De son côté, Médecins sans frontières appelle les belligérants au respect du droit humanitaire. MSF condamne l'utilisation d'armes lourdes dans, autour et contre les établissements de santé. L'ONG rappelle à tous les belligérants que les structures et les véhicules médicaux doivent être respectés et protégés pour permettre aux agents de santé de soigner et transporter les patients dans un environnement sûr et sécurisé. Quelle est l'urgence de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Dr Alain Mboko Ieti qui est avec nous dans ce studio. Il est secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Docteur Alain Mboko, bonsoir.
Bonsoir.
Au téléphone, Maître Paulin Kalinga, chargé des programmes au sein de l'ONG, aide de la SONADEV, oui, voilà, synergie des organisations nationales humanitaires et de développement. Il est basé à Goma, au Nord Kivu. Maître Paulin Kalinga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Claude Mbabazé? Je crois qu'on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiopapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous pouvez aussi nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Dans la province du Nord Kivu, les récents affrontements qui opposent les résistants patriotes aux rebelles du M23 RDF ont occasionné de nombreux mouvements de déplacement de la population. Plusieurs familles arrivent dans différents sites des déplacés autour de Goma en provenance des zones de combat dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. Cependant, ces nouveaux déplacés n'ont ni abri ni aide alimentaire. Pour eux, tout est urgent. Abri, assistance alimentaire, non-vivre. À travers la vie d'une mère et ses 7 enfants, Rosalie Zawadi nous présente les conditions de vie de ces nouveaux déplacés.
Je suis venue de Kichanga. C'est depuis une semaine et 3 jours que je vis dans ce site, dit Madame Feza Namunganga, croisée près de la route dans les camps de Rusayo 2. Portant ses 2 bébés, âgés d'environ 7 mois, l'un au dos et l'autre à la poitrine, elle nous relate son calvaire qui a commencé chez elle et qui est loin de se terminer ici.
Nous avons fui des violents affrontements chez nous. Nous avons réussi à nous sauver des justesses et à nous éloigner des zones de combat. Et nous sommes venus nous installer dans ce camp de Rusayo. J'ai 7 enfants, nous passons la nuit dehors. Je ne sais pas si mon mari est mort ou s'il a réussi à fuir vers une autre direction. J'ai des enfants jumeaux qui pleurent toute la nuit à cause du froid des dehors. Nous subissons non seulement la pluie, mais aussi la famine. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de penser à nous qui venons d'arriver, qu'elles nous donnent aussi à manger.
Comme cette mère de famille, ils sont des centaines, les nouveaux ménages des déplacés qui vivent difficilement, non seulement ici à Rusayo 2, mais dans tous les sites autour de Goma. Si leur besoin ultime est le retour de la paix dans leur zone d'origine, ils demandent en attendant de vivre dans des conditions acceptables. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Merci Rosalie Zawadi pour ce reportage. Docteur Alain Mboko Ieti, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Vous avez suivi ce reportage de Goma avec cette femme qui a 7 enfants, qui vit dans des conditions très très difficiles dans un site de déplacés. Votre réaction après avoir suivi ce témoignage très poignant?
Oui, merci madame. Cette alerte nous interpelle et c'est la situation que nous enregistrons chaque jour. Des alertes de populations déplacées qui, suite aux conditions inattendues, quittent leur maison, bravent les difficultés pour arriver là où ils doivent être accueillis. Et malheureusement, les conditions d'accueil posent problème en termes d'abri, en termes de sites d'hébergement, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, où il y a un afflux massif devant un problème de terre pour construire les nouveaux abris. À côté des abris, il y a toute la question de l'assistance alimentaire qui se pose en termes de fréquence d'assistance, mais aussi en termes d'accès. Vous savez que suite aux conditions des attaques, les sites ne sont pas accessibles. Donc nous avons d'une part la question des abris pour contenir les afflux des populations déplacées internes, mais aussi la question de l'accès pour leur apporter l'assistance.
Mais tous ces sites tout autour de Goma sont accessibles, puisque nos reporters sont allés sur place.
Les sites qui sont accessibles, mais le nombre, ils n'arrivent pas à contenir tous les afflux. Dans le reportage, nous avons suivi que suite aux attaques, il y a de nouvelles vagues qui ne peuvent pas être abritées dans ces sites. C'est ça la première question. Et aux dernières évaluations, on avait besoin de plus ou moins 100 hectares qu'on n'arrive pas encore à avoir. Il faut avoir ces hectares pour qu'avec les humanitaires, on puisse monter les abris sécurisés pour loger le ménage. C'est ça déjà le premier calvaire que nous avons dans la réponse humanitaire.
Alors, vous parlez d'un problème d'abri, vous attendez d'avoir les 100 hectares pour monter des tentes, mais ils ont aussi besoin de nourriture. Il n'y a rien. Ces déplacés souffrent. Le gouvernement n'a pas les moyens de prendre en charge tous ces déplacés.
Le gouvernement n'a pas de moyens, ça on ne peut pas le dire. Mais en tant qu'administration, nous agissons par des requêtes que nous soumettons au gouvernement pour que les moyens soient mis à notre disposition pour répondre. L'évaluation que nous avons faite la semaine passée montre que si 63 requêtes introduites, il n'y a que 11 qui ont été honorées. Et quand on voit le rythme d'assistance que nous apportons, ne répond pas encore aux vrais besoins. C'est que ce que nous apportons ne répond pas aux besoins en termes de consistance et de quantité. Il y a un vrai problème. Parce que l'assistance...
Est-ce que cette question n'est pas prioritaire pour le gouvernement? Sur 63 requêtes, 11 seulement ont reçu une réponse favorable. Ça oui. Veut dire qu'on banalise un peu cette question?
Banaliser, je ne pense pas. Le ministre des tutelles, son excellence Modeste Mutinga, avait lancé encore un SOS sur la situation des déplacés internes, aussi bien à l'est qu'à l'ouest.
Mais bien sûr.
Alors, on a actuellement une caisse qui doit recevoir les provisions pour répondre. Mais là aussi, c'est question de moyens. Nous, en tant que ministère, nous faisons un effort de remonter les alertes à qui des droits. Mais le moyen ne suit pas. C'est cette situation de moyen et par rapport à l'ampleur des besoins.
6,9 millions de personnes forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la RDC alerte l'Agence des Nations Unies pour l'immigration. Un chiffre record, monsieur docteur Alain Boko. C'est trop.
Oui, c'est trop. Pendant presque 2 ans, la RDC était en Afrique le pays qui comptait le plus grand nombre de déplacés internes. Depuis le mois passé, nous venons en deuxième position après le Soudan. Et quand on parle de ces noms, peut-être on ne se rend pas compte. Quand on parle de déplacés internes, vous avez environ 3 millions de déplacés internes au Nord Kivu. Ça représente à peu près 50% de cette population. Et quand 50% de la population se déplace, n'a pas d'habitat fixe, et cela depuis des années. Conséquence, dans tout le site qui produisait ne produisent pas, ils doivent vivre de l'assistance. Et quand cette assistance n'est pas organisée, c'est que les gens vivent dans une situation de précarité. À côté du Nord Kivu, si vous allez en Ituri, ça représente aussi à peu près un quart de la population. C'est une situation préoccupante et comme on le voit, c'est suite en le sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, les gens ne peuvent pas travailler. Et s'il n'y a pas la sécurité, même l'assistance ne peut pas arriver là où elle doit arriver. C'est là toute la difficulté qu'on a d'organiser l'assistance à cause des déplacements itératifs et qui ne permet pas de maîtriser le flux de migration interne et avec le besoin qui sont croissants et parfois mal captés.
Est-ce que ça veut dire que tous ces déplacés vont continuer à vivre dans ces conditions en attendant que le gouvernement puisse libérer les moyens pour leur prise en charge?
Non. Vous savez que c'est une situation préoccupante et pour le gouvernement et pour tous les partenaires humanitaires qui doivent réunir le moyen et travailler avec le gouvernement pour répondre aux besoins. Les actions humanitaires, nous agissons en réponse aux besoins. Et ces besoins sont évalués avec tous les partenaires qui sont sur terrain et nous essayons de prioriser par rapport à la situation qui se présente. Mais la situation actuelle, comme je l'ai dit, le besoin sont énormes.
Évalué à combien à peu près?
Le besoin. Donc nous avons un plan de réponse humanitaire pour cette année. Il était évalué environ 2,5 milliards de dollars pour couvrir le besoin. Mais jusque à la réunion que nous avons faite le 31 octobre, on a vu que à ce stade, les besoins ne sont couverts qu'à hauteur de 37%. Donc même la capacité de réponse, gouvernement, avec les agences des Nations Unies et tout confondu, nous n'arrivons pas encore à couvrir 40% de besoins. Donc c'est la question des moyens, mais aussi la question de priorisation, parce que le besoin ne font qu'augmenter, mais les ressources ne suivent pas le rythme d'augmentation de besoins.
Merci docteur Alain Bocon, vous gardez encore nous cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à maître Paulin Kialenga, chargé des programmes au sein de l'ONG, aide de la SONADEV, voilà, synergie des organisations nationales humanitaires et de développement basées à Goma au Nord Kivu. Maître Paulin Kialenga, 6,9 millions de personnes forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la RDC pour vivre dans des site des déplacés, l'OIAB, c'est-à-dire l'Organisation internationale des migrations, s'inquiète, un nombre record.
Ah, ok, merci beaucoup madame, et en passant je vous salue encore une fois et merci. Je salue mes co-débatteurs de ce jour. Avant tout je voulais donner une précision, c'est que je travaille avec AIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social, mais je suis membre d'une synergie des organisations nationales SONADEV. C'est juste cette clarification-là.
Merci.
Alors, madame, d'entrée de jeu, je dois dire que le message de l'OIM et aussi le reportage fait par madame Rosalie Zawadi et même l'intervention déjà de docteur Alain Bocon, secrétaire général, illustre déjà au moins la situation critique qu'on est en train de vivre au niveau humanitaire, au niveau de la RDC, et particulièrement si je prends le cas du Nord Kivu. Pourquoi je dis cela critique? Parce que cette situation, elle est en train de partir de mal en pis. Qu'est-ce qui se passe en fait? Madame, comme le docteur a eu à le souligner, c'est vrai, il y a vraiment des besoins énormes qui sont sur terrain actuellement. Vous avez suivi le reportage de la dame qui est venue au niveau du site de Roussayo, parce que ce sont quand même des sites assez accessibles au niveau de Goma. Et il y a plusieurs sites dans ce sens-là au niveau de Goma qui sont accessibles. Mais le souci qui se pose par rapport à ça, c'est qu'il y a actuellement de vagues très 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 importantes de personnes, parce que au dernier chiffre, au moins des organes chargés de présenter cela au niveau du Nord Kivu, la commission mouvement de population, on vous parle des déplacements suite aux récents affrontements et qui a causé près de 296 000 personnes qui ont été forcées de fuir ou bien de se réfugier dans des lieux plus sécurisés. Donc, comme le docteur l'a dit, il y a ce problème de financement. Moi, j'aime toujours qu'on fasse une analyse qu'on appelle souvent avec quatre éléments quaternaires, c'est-à-dire en prenant le nombre de déplacés qui sont en train de se déplacer, qui ont été obligés de fuir. En prenant les acteurs, parce que oui, madame, il y a des acteurs qui interviennent, il y a des acteurs qui sont sur terrain. On est même avec les services étatiques qui relèvent bien évidemment du ministère de l'Action humanitaire qui sont sur terrain avec nous. On a des besoins énormes qui se présentent et le souci, ce sont les moyens qui ne suivent pas. Comme le docteur l'a dit, c'est vrai, il y a eu une évaluation qui a été faite et on se retrouve sur la réponse humanitaire lorsque, par exemple, vous parlez du plan de réponse humanitaire où on doit atteindre quelques 10 millions de personnes, mais vous n'arrivez que à avoir de fonds équivalents à 37%. Comprenez un peu la difficulté qui se présente là-dessus. C'est vrai, au niveau des acteurs humanitaires, on s'organise pour que tous ces ménages qui viennent, on essaie de faire un peu ce qu'on appelle des hangars communautaires pour essayer de les assister tant soit peu. Mais il y a ce problème de terre qui se pose, il y a ces problèmes de moyens qui se posent et on est en train d'aller dans une situation qui risque d'être ingérable. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a des ménages qui sont encore arrivés à 7h, aux environs de 16h15, 16h, 17h, au niveau des différents sites de déplacement autour de Goma, parce que le conflit ou les affrontements s'intensifient. Donc voilà un peu les tableaux assez sombres là-dessus, et je pense qu'il faille que des solutions assez idoines en termes de mobilisation de fonds se fassent, ensemble bien évidemment avec les organes étatiques.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, Maître Paulin Kalenga, cette faible mobilisation des fonds pour se déplacer?
Bon, il y a ce que le co-débatteur a eu à souligner, c'est qu'à un certain moment, nous étions le plus grand pays avec le plus de déplacés, et puis le Soudan a repris la place. Mais si vous regardez un peu l'historique, vous verrez que c'est une crise qui a pris un peu de temps. Et face à ce temps qui a été pris par rapport à cette crise, donc la crise en RDC, la crise humanitaire, il y a maintenant une certaine léthargie en termes d'appui et d'apport de fonds. C'est pourquoi ici, si même on est arrivé à mobiliser les 37% comme il a dit, parce que en juillet on était encore à 29% de fonds par rapport à la réponse humanitaire, c'est aussi cette intensification des activités humanitaires qui a été lancée juin 2023. C'est-à-dire pour essayer de mettre la RDC à l'échelle, enfin que plusieurs agences mobilisent encore davantage de fonds pour venir en aide aux personnes déplacées. Donc bref, il y a une certaine léthargie au niveau humanitaire où il y a plusieurs crises actuelles au monde et on ne parvient pas à mobiliser assez de fonds par rapport à cette crise au niveau de la RDC. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, madame.
Jean-Claude Mbabazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru. Au Nord Kivu, votre lecture de la situation de ces déplacés dans les sites des déplacés, je m'excuse de la tautologie, les conditions de vie de ces déplacés, qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir suivi le témoignage de cette femme qui est passée tout à l'heure dans le reportage de Rosalie Zawadi?
Oui, bonsoir Madame Kelly. Je voudrais en tout cas, avant de commencer, présenter encore une fois ma compassion à l'égard de mes frères déplacés comme moi, qui suis aussi déplacé. Et je suis en train de pleurer vraiment quand je vois la situation que traversent les déplacés, aux yeux, en tout cas, impuissants du gouvernement, et même aussi à l'incapacité des partenaires du gouvernement, notamment les humanitaires. Mais y a un problème très sérieux, madame. Quand je vois par rapport aux déplacés, en tout cas à l'est ici, quand vous prenez au nord Kivu, vous prenez à Bounia avec tout ce qu'il y a comme déplacés au niveau de la construction de l'ISP, au niveau du lycée Kionze, vous allez un peu partout, il y a des déplacés. Mais pour le cas du nord Kivu, madame, je suis en train de me demander si réellement on a un gouvernement qui est responsable. Parce que moi, je pense que le gouvernement doit être prévoyant. Quand on parle des ministères des Affaires humanitaires, on doit savoir qu'il y aura des problèmes. Et face à ce problème, qu'est-ce que l'on doit faire? Mais continuer à penser qu'on va peut-être avoir de l'argent de l'extérieur, c'est très bon. Mais d'abord, à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Parce que j'ai suivi le docteur Alain, que je salue en passant. Il a parlé du problème des abris. Oui, il n'y a pas des abris. Mais bien sûr, s'il n'y a pas d'abris, mais pourquoi il n'y a pas d'abris? Et il a parlé, c'est vrai qu'il y a un problème d'accès. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, les sites autour de Goma, dans Goma, l'accès, en tout cas, n'est pas impossible. L'accès est là, mais on ne comprend pas pourquoi on peut parler encore de l'accès en ce moment. Donc, on parle des problèmes de besoins. Oui, il y a beaucoup de besoins, d'accord. Mais ces besoins, en principe, le ministère devait, en tout cas, prévoir dans son budget qu'il y aura des besoins et surtout que ces déplacés sont arrivés pendant qu'il y avait un budget qui avait été voté. Est-ce qu'on peut déjà nous dire présentement où les budgets qui est prévu par rapport à l'assistance humanitaire, c'est combien? On a déjà exécuté à combien de pourcents pour que nos frères vraiment traversent un moment très difficile dans les camps pour l'instant. Je veux dire, madame, si vous prenez ce qui se passe dans notre pays, c'est quand même horrible. On ne peut pas nous dire, nous, de déplacer aujourd'hui, que le gouvernement n'a pas de moyens, alors qu'on est en face de nous, des députés, par exemple, qui touchent 21 000 dollars, des ministres, on a à peu près 57 ministres qui ont des salaires exorbitants, il y a des membres des cabinets, on ne cite pas, il y a au niveau de la présidence, il y a des mandataires, tous ces gens-là ont des salaires exorbitants, et qu'à la fin, on dit que nous, les déplacés, on doit en tout cas vivre cette vie pendant que c'est nous qui payons toutes ces taxes-là. Je me dis, madame, si les humanitaires n'ont pas de moyens pour appuyer le gouvernement, mais prenons même le cas des députés. J'ai fait un petit calcul seulement, j'ai dit, par exemple, pour les abris, on a 500 députés. Chaque député peut sortir même si ne bénéficie que 100 dollars, on a 5 bâches. Fois 500 députés, ça fait 2500 ménages qui peuvent trouver déjà une bâche. Si on prend les sénateurs, ils sont au-delà de 100. Si on prend les ministres, ils sont au-delà de 57, plus leurs vice-ministres. Donc, vous comprenez que si on prend le membre du cabinet, facilement, même si chacun donnait même seulement 5 bâches sur leur salaire que nous mobilisons en payant nos taxes, les déplacés n'allaient pas, en tout cas, vivre la vie qu'on est en train de mener.
Vous estimez donc que ce problème de manque de moyens n'est pas vrai. On peut mobiliser les moyens pour se déplacer.
Oui, il y a un manque de volonté auprès du gouvernement. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire qu'on a manqué une bâche à donner à un déplacé pendant qu'on donne 21 000 dollars à un député. Pendant qu'on donne plus de cela à un ministre et tous les mandataires et les membres des cabinets. Ce n'est pas quand même normal. Où est la solidarité nationale qu'on parle si on peut abandonner des déplacés à l'heure qu'ils se sortent? Madame, les reportages qu'a fait Madame Rosalie, c'est peut-être que vous l'entendez par de loin, mais moi j'ai vu ça. Vous trouvez, on parle de nouveaux venus, c'est vrai. Même les anciens, est-ce qu'ils ont des abris? Jamais. Aujourd'hui, les gens dorment dans des moustiquaires. Donc, vous trouvez vraiment déjà abandonnés à leur triste sort, comme si vraiment ce pays n'est pas gouverné. Donc, je pense qu'à un moment donné...
Vous qui êtes déplacé, Jean-Claude Mambazé, vous êtes déplacé, vous êtes dans les sites déplacés. Est-ce que vous voyez quand même les membres du ministère des Affaires humanitaires rendre visite aux déplacés?
Madame, rendre visite, c'est amener l'assistance aux déplacés. Je peux vous dire aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 7 mois au-delà que le ministère, le gouvernement n'a pas assisté les déplacés, le cas du Nord Kivu.
Alors, maintenant, dans 7 mois, est-ce que le gouvernement pense que ces gens vivent comment? Les gens qui ont abandonné leurs terres, les gens qui ont abandonné toutes leurs activités, et ils sont obligés, depuis maintenant, la mendicité ici dans la ville. Les filles, maintenant, sont en train de se prostituer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment moyen. Et, comme en tout cas, moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de visite. Je vous dis que la dernière assistance venue du gouvernement, minime qu'elle était, est arrivée il y a au-delà de 7 mois. C'est quand même pas normal, c'est quand même pas inacceptable qu'on abandonne des populations congolaises plus de 7 mois sans aucune assistance. Mais, je vous dis, les taxes sont mobilisées, les impôts sont payés. Et je me dis, madame, est-ce que réellement on sent vraiment la douleur ou alors le problème de se déplacer réellement? C'est ça la question que nous nous posons, nous qui sommes des déplacés.
Docteur Alain, comment voyagez-vous? Plus de 7 mois, aucune assistance aux déplacés.
Non, là, je m'insire, j'en fous. La dernière assistance apportée par le Premier ministre, avec c'est le 28 mai. C'est à l'occasion de la visite conduite par le Premier ministre qui a porté aussi sur Goma et sur Calais, le 28 mai.
Ça fait 5 mois quand même.
Oui, parce qu'on a parlé en termes... On sait que nous reconnaissons qu'il y a l'insuffisance des moyens et le cadre qui sont là, vous savez, les actions humanitaires, ils n'ont pas de recettes propres. Ils reçoivent tout du gouvernement. Quand on pose la question, quelle est la part du budget réservée aux actions humanitaires? C'est moins... d'1%, 0,8% du budget national. Le ministre a fait l'objet d'une question orale avec débat au Sénat. On a évoqué la même question. Au 30 juin, le niveau d'exécution du budget était à 19%. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis à la disposition de l'administration des actions humanitaires le moyen nécessaire pour répondre. Compte tenu de la situation, parce qu'on ne doit pas attendre que le crise soit là pour répondre, on a mis en place une caisse de solidarité pour la réponse. Mais à cette caisse, il n'y a pas eu de moyens. Une première requête a été faite, les instructions ont été données, les moyens qui ont été donnés n'ont pas permis de répondre.
Et qu'en est-il de la campagne du ministère des Affaires, des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale qui avait été lancée avec grande pompe? Est-ce que la campagne continue?
La campagne ne continue pas. Moi, je fais partie de l'équipe qui est à Goma. Tout ce qui a été récolté a été remis après la séance aux autorités locales pour répondre. On a tous les statistiques. On a tous les statistiques de dons qui sont récoltés par solidarité pour répondre. Mais le don et les assistances qu'on reçoit sont loin de répondre aux besoins qui sont énormes et qui dépassent nos prévisions. Donc ici, je reviens, c'est la question de moyens pour répondre. On parle de sites qui existent, mais il faut dire que 90% des déplacés internes sont dans des familles d'accueil. Ici, nous parlons de ceux qui sont dans le site, mais ces sites sont surpeuplés au point que même le profilage qu'on fait ne permet pas de répondre à tout le besoin. Il s'agit surtout de la question du moyen, premièrement. Ensuite, il y a aussi des moyens qui passent par la coopération indirecte, mais que le gouvernement ne contrôle pas directement. Et en tant que l'administration des actions humanitaires, nous devons suivre tout ce qui arrive. Et là, c'est aussi un autre problème. Donc, la question des moyens, mais aussi la coordination et la synergie des interventions sur terrain.
Ce n'est nullement question de mauvaise volonté, comme l'a dit Jean-Claude Bambazé, non?
Non, loin de là. Vous savez, les actions humanitaires, c'est d'abord, on agit par compassion pour répondre. Les actions humanitaires, si les sadiques n'ont pas leur place. Parce que la souffrance que ressentent les autres, on doit travailler pour répondre à cette souffrance en apportant ce qui est nécessaire.
Merci, docteur Alain Mboko. Voilà, on va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler, qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, maître Paulin Kalinga.
Marie Kassongomou, il est depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le nombre de déplacés ne peut que s'augmenter du jour au lendemain. Les autorités ne s'intéressent plus à la sécurité, et surtout pendant cette période électorale où tout le monde cherche à se sortir, tout en ignorant que c'est cette population qui va voter pour eux. À Kisangani, par exemple, plusieurs déplacés suite au conflit entre les communautés Mbol et l'Engola. Et ce qui est grave encore, le fait que le gouvernement central ne s'occupe pas des déplacés de ces conflits. Je pense que dans un pays où la sécurité est prioritaire, on ne peut pas enregistrer beaucoup de déplacés. Et les autorités mettent un accent particulier sur la sécurité du territoire national.
Qu'est-ce que vous en pensez, maître Paulin Kalinga?
Ok, merci beaucoup, madame. Je pense que effectivement, l'auditeur a raison d'avoir peur par rapport à cela, parce que avec toutes les difficultés qui se présentent au niveau de l'action humanitaire et tout le besoin qui ne font que grimper chaque jour par rapport à cette situation, bien évidemment, on ne peut que avoir cette peur-là. Et à mon niveau, quand je regarde par exemple aussi le budget affecté au niveau de l'action humanitaire par le gouvernement, c'est qui est de 0,8%, je pense que c'est quelque chose, un plaidoyer, qui devrait encore être fait davantage pour qu'on comprenne qu'il y a déjà une situation assez complexe de crise humanitaire en RDC et qu'on mette assez de fonds par rapport à ça. Parce que effectivement, avec l'aspect électoral, on risque de mettre cela en second rang et la situation risquerait de devenir à un certain moment ingérable en termes de crise humanitaire. Merci.
Claude Jean-Claude Bambazé, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Chabunda au sud Kivu.
David Massandi Chabani, depuis Chabunda au sud Kivu. La réalité est que la situation à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe moins la communauté internationale du fait que le gouvernement congolais ne fait pas cette situation sa priorité. Il est déplorable, pendant que les gens meurent du jour au jour et on vante une diplomatie improductive qui, ayant comme objectif de s'éterniser dans la même situation. Toutes les promesses électorales de 2018 donnent son résultat. Et d'ailleurs, ces ONG doivent faire attention avec son personnel du fait que le M23 tire sur tout ce qui bouge en RDC. Personne ne sécurise personne. Plutôt, c'est Dieu qui le fait.
Jean-Claude Bambazé.
Oui, en tout cas, peut-être avant de répondre à mon ami David Chabani, je voudrais quand même revenir un peu sur ce qu'a dit docteur Alain.
Allez-y.
Par rapport à l'instance du 28 mai. Je crois que quand même, à un moment donné, c'est bien de dire qu'on a assisté, mais j'étais là quand le problème était arrivé à Goma. Je veux en tout cas parler sous peut-être la supervision de notre ami Aïdes qui a toutes les statistiques, mais je peux vous dire que le premier ministre avait amené, en tout cas, l'aide. C'était peut-être pour 1500, moins de 2000 ménages, pendant qu'on a plus de 75, 80 000 ménages. Est-ce qu'avec ça, on va dire vraiment qu'on a assisté des gens? Non. Quand même, soyons quand même humains et traitons la question dans toute sa globalité. Il y a des problèmes. C'est pas vraiment le temps peut-être de vouloir se justifier, mais reconnaissons qu'il y a un problème, que le gouvernement, vraiment, dans ce domaine, il a failli. Et surtout même quand on voit que les budgets alloués d'abord aux problèmes humanitaires, est-ce qu'avec ces budgets, on peut vraiment s'attendre à dire que non, on a un gouvernement qui comprend qu'il y a un problème? Non, je ne pense pas. Et pour revenir à la préoccupation, à la question de David, je comprends bien, c'est une réalité. S'il faut penser à la communauté internationale, c'est que nous resterons toujours dans ce cycle de violence.
Vous savez que toutes ces multinationales, tous ces pays puissants veulent avoir la suprématie ou alors même les matières premières ici à l'Est. Et tout ça, ils veulent passer par la guerre. Et que donc, la guerre pour eux, il y en a qui en bénéficient beaucoup, qui ne voudront jamais que la guerre se termine. Et cela doit interpeller maintenant la conscience à l'interne. Nous, à l'interne, nous les Congolais, le gouvernement congolais, il fait quoi exactement pour ne pas continuer à compter sur l'extérieur et compter sur ses propres moyens? C'est de là où moi je dis clairement que la question sécuritaire devait être une priorité du gouvernement et on devait mettre tous les moyens nécessaires. On pouvait même arrêter les émoluments des députés, des ministres, tout ça, et qu'on mette tout cet argent-là dans la question de la guerre pour qu'on résolve ça, parce que, je peux vous dire, madame, la population de l'Est, en général, c'est une population qui aime bien travailler. Elle n'est pas habituée à vivre la mendicité, mais on la contraint à cause de toutes ces guerres que nous on est en train de subir. Donc, le gouvernement doit travailler pour que la guerre prenne fin, et afin que les gens rentrent chez eux et on n'aura plus encore cette vie de mendicité ou les souffrances qu'on est en train de subir dans notre propre pays sans aucune assistance.
Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Jonathan Branham qui nous suit depuis Lubumbashi, Jonathan Makembo depuis Manopi, territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Bonsoir également à Pascal Kiamba qui nous suit depuis Mbujimayi, Moïse Kabunga depuis Ngandajika, province de Lomami, Jean Biarwanga qui nous suit depuis Bunia. Merci beaucoup. Bangouma Yves Birali pense que le gouvernement ne connaît peut-être pas les besoins concrets de la population. Il écrit depuis le sud Kivu, Aimé à Bambi, depuis Kisangani. Merci de suivre Radio Okapi. Yakagwa Henri Dego nous suit depuis le site des déplacés de Rowe, je pense que j'ai bien prononcé, dans la province de l'Ituri. Docteur Alain Boko, on va prendre cette dernière réaction pour vous qui nous vient de Mweka, au Kasaï.
C'est Serge Hervé depuis la province du Kasaï, territoire de Mweka. La situation de déplacement en République démocratique du Congo ne sera pas résolue alors qu'on n'a pas encore pu trouver une solution fiable à ce qui concerne la sécurité dans notre pays. Et au-delà de cela, nous constatons une négligence des autorités congolaises pour aider donc nos déplacés en République démocratique du Congo.
Docteur, comment vous répondez à Serge?
Oui, je crois que Serge a totalement raison. Quand on parle de la situation de déplacés, la première cause, nous avons dit, c'est l'insécurité, notamment des conflits armés. Et quand on voit le conflit armé, c'est qu'il faut voir la question de la sécurisation de la population et aussi le règlement des conflits. Alors, devant cette situation, c'est la question de la sécurité, la question de la protection de la population civile. Et c'est la responsabilité première de l'État de mettre le moyen et de renforcer les mesures de sécurité pour que la population ne subisse pas le revers de tout ce qui sème l'insécurité. L'assistance humanitaire, c'est aussi la responsabilité première du gouvernement qui se fait assister par tous ceux qui veulent l'appuyer et travailler sous son leadership. Toutes les organisations humanitaires travaillent sous l'invitation du gouvernement qui doit les coordonner. Le gouvernement maîtrise bien, mieux que quiconque, le besoin, parce que nous avons le service qui rapporte chaque jour le mouvement de la population avec leurs besoins. Mais la question qui se pose, c'est d'avoir le moyen en temps voulu, en temps réel, pour répondre à ses besoins. Donc, pour nous, des actions humanitaires.
Mais, en attendant que les moyens soient libérés, est-ce qu'il n'y a pas une autre, c'est pas une alternative pour récolter les moyens, faire une collecte et venir en aide à ces déplacés?
La collecte, c'est fait. Je vous ai dit que 90% des déplacés internes sont dans le ménage. Et avec l'augmentation de besoins, même ces ménages qui accueillent deviennent vulnérables. Nous avons dit Pourquoi le moyen diminue? La première chose, nous avons dit, il y a la compétition. Il y a maintenant plusieurs crises. Et dans les actions humanitaires, nous disons, une crise chasse une autre. Si vous voyez dans le média, la crise en RDC n'est plus au top. Maintenant, c'est Israël avec Hamas et avec tous les autres. Le deuxième élément aussi, c'est le niveau de plaidoyer que nous devons faire. Une émission comme celle-ci, c'est une émission qui sensibilise sur le besoin non couvert des populations et pour lesquelles les gouvernements, les partenaires et toute la société civile doit lancer ce message pour permettre de mobiliser des ressources et les affecter à ceux qui en ont besoin. Voilà, ce sont là les éléments sur lesquels on doit tous travailler pour permettre de résoudre la question des déplacés internes, mais aussi de travailler pour le retour de la paix, pour que tous ceux qui sont déplacés, qui ont laissé champs, fermes et autres, puissent rentrer, travailler, et comme ça, ça répond en partie aux questions de besoins non couverts, parce que les gens qui ont quitté là où ils étaient, ils ne vivent pas de l'assistance. S'ils peuvent regagner leur domicile, ils auront les nécessaires pour survivre.
Alors, Amani Kayengere Kalingishi est quand même déçu du gouvernement. Il se demande comment on peut abandonner les déplacés pendant plusieurs mois sans assistance. Robert Baomé, qui nous suit depuis Bukavu, merci beaucoup. Kibunga Muindo, je voulais demander si on a RDC, les autorités démissionnent par hasard. Si oui, qu'est-ce que ces derniers attendent? Il nous écrit depuis Goma, au nord Kivu. Pasteur Nipon Beleka, depuis la province du Lualaba, merci beaucoup. Il est à Kolwezi. David Wedi Wetokonda, depuis Kinshasa. Je me pose 1000 questions. Si ces 6,9 millions de déplacés vont voter paisiblement, voilà, c'est plusieurs questions qui nous arrivent et préoccupations. Merci à José Wale qui nous suit depuis Mongafula à Kinshasa. Abdoul Mizirero, depuis le nord Kivu, Gabriel Dalimbouzi depuis Kindu, Augustin Kisomo depuis la ville de Butembo. Merci beaucoup, chers internautes. Vous êtes tellement nombreux. On ne peut pas lire tous vos messages. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maître Paulin Kalenga, en attendant que les moyens soient disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire pour se déplacer, Maître Kalenga?
Ok, merci beaucoup madame. Bon, en attendant, on sait que ces moyens sont disponibles. Les moyens déjà qui sont là, on essaye, acteurs humanitaires, en parlant d'acteurs humanitaires, je parle des agences des Nations Unies, les acteurs internationaux, donc les ONG internationales, les ONG nationales et voilà, les mouvements de Croix-Rouge, de la Croix-Rouge. Et donc, on essaie quand même d'apporter une assistance avec ce qu'on a. C'est ce qui est fait sur le terrain actuellement. Mais comme on l'a souligné, il y a vraiment de besoins énormes et il faudrait qu'on pense au moins à mobiliser davantage de fonds au niveau international parce que c'est là en bas de la collaboration entre les différentes sociétés civiles à sociétés civiles, mais aussi au niveau national pour qu'au moins au niveau du budget national, il y ait un montant assez consistant par rapport à l'action humanitaire. Voilà ce qui est fait sur terrain et en attendant à ce que les autres fonds peut-être avec bien évidemment le concours du ministère de l'Action humanitaire et de tous les autres, qu'on puisse mobiliser suffisamment de fonds. Merci.
Merci, Maître Paulin Kalenga. Jean-Claude Mbambazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Vous êtes vous-même déplacé. Quel message vous voulez lancer au gouvernement ce soir dans cette émission radio Dialogue entre Congolais?
Oui, mon message, il est vraiment clair au gouvernement, c'est de comprendre que nous avons aussi droit à la vie comme des citoyens congolais. C'est vraiment ça l'essentiel. Ils doivent savoir que nous avons droit à la vie et nous avons aussi droit à l'équité même de partage des ressources de ce pays. J'insiste toujours en disant que, si vous avez compris madame, je n'ai pas fait allusion à beaucoup de les ONG parce qu'ils sont aussi dans leur mafia, certaines organisations, je ne vais pas entrer dedans, mais moi je vois le gouvernement qui est notre parent. Je pense qu'en ce moment ici, dans des moments très difficiles,
le gouvernement devait prendre même une décision en tout cas très dure en disant voilà, pour appuyer nos compatriotes qui sont en difficulté, divisons même par deux les salaires des ministres, divisons par deux les émoluments des députés, divisons par deux les salaires de tous les membres des cabinets, des mandataires, des gouverneurs, tout ça, pour venir en aide à ces populations-là. Parce que quand on parle même de la mobilisation, madame, vous voulez que les organisations internationales viennent nous appuyer comment? Pendant que d'abord le gouvernement lui-même vote un budget de 0,8%. Et on veut que l'extérieur vienne faire quoi? Pendant que d'abord, à l'intérieur, le gouvernement lui-même semble négliger l'aspect de l'aide aux déplacés qui sont à l'intérieur. Et que donc, ça c'est vraiment très clair. Même docteur Alain, quand il parle, en tout cas, il parle comme s'il n'est pas membre du gouvernement. Moi, je pensais que lui allait nous dire, tout le monde, votre gouvernement, voici ce que nous allons faire. Parce qu'il faut aussi partir même de ce gouvernement-là. Il ne peut pas quand même comme ça se plaindre que le gouvernement ne fait rien, alors que lui, il est aussi membre de ce gouvernement. Et que donc, nous, en tout cas, comme déplacés, nous pensons que la solidarité nationale, elle n'est pas là vis-à-vis des déplacés du Nord Kivu. On est abandonné en triste sort par le gouvernement de Kinshasa et nous ne sommes plus considérés et même le partage des ressources n'est plus considéré. Aujourd'hui, maintenant, on doit mourir comme des mouches sans assistance aucune de la part du gouvernement.
Merci Jean-Claude Mbambazé, docteur Alain Boko Yeti, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Les déplacés se sont abandonnés, pas seulement les déplacés du Kivu, du Nord Kivu, ceux de Kwamout aussi, ils sont vraiment abandonnés. Tous les jours, ils font des manifestations pour réclamer qu'ils soient quand même assistés par le gouvernement.
Oui, nous comprenons les cris des déplacés. Et ils ont raison, ils ne peuvent que l'adresser au gouvernement. Le gouvernement, en tant que responsable, ne peut pas abandonner ses propres enfants. Comme nous l'avons dit, les besoins sont connus, un effort est fait pour répondre avec ce qu'on a. Et nous reconnaissons que l'effort n'est pas encore consistant pour répondre aux besoins. Et c'est là où nous lançons l'appel à la solidarité. Au niveau du gouvernement, cet effort est fait. Il faudrait qu'aussi cet effort...
Cet effort est fait comment au niveau du gouvernement?
Oui, avec les assistances, si ponctuelles que ce soit-il, ce sont les assistances, les moyens que le gouvernement déploie. Et comme nous l'avons dit, le besoin tel qu'estimé, peut-être on va dire que le besoin était sous-estimé, par rapport au budget passé, et nous avons lancé le même cri lors de la session budgétaire pour qu'il y ait non seulement l'augmentation, mais le prépositionnement de ces moyens dans les provinces qui sont en proie aux crises pour qu'il y ait moyen de répondre au plus près. Et déjà, les orientations qui ont été dégagées, c'était d'améliorer les rythmes d'assistance, mais aussi la consistance en termes des quantités.
Merci, docteur Alain Boko Yeti, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Jean-Noël Mukundo, Clément Chimanga, Jonathan Fanani, Guy Maté, Donna Madimba, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Au micro, c'était Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.